Bien accompagné, puis pas à peu près, Audrey Pinchot qui est de retour après m'avoir abandonné hier, comme ça.
Franchement.
Oui. T'es une fille de même, toi.
Abandonnée.
Tu fais même
ouais.
des rêves d'abandon à mon égard.
Hey, ça, sérieux, j'ai vraiment de la misère à dormir cette nuit. Je fais jamais d'insomnie, j'ai pas de problème de sommeil. Puis ouais. cette nuit, j'ai rêvé toute la nuit là, que, en plein milieu du show, je trouvais une raison de m'en aller, puis je m'en allais, genre, à un rendez-vous. Ou, puis tu sais, un rêve qui se poursuit, là, tu te réveilles, là, tu ouais. t'en coupes pas, mais tu te rendors, puis ça continue. Fait que toute la nuit, j'ai rêvé à toi. Puis ah, le fait ben. Que je t'abandonnais, puis je me sentais mal.
C'était plein, juste ça. C'était juste l'abandon.
C'était que de l'abandon, Yann, que ça. Hein? Je me suis réveillée ce matin, puis je me suis dit, coudonc. Puis je savais plus ce qui était vrai, puis pas vrai. J'étais comme, Yann, es-tu fâché contre moi?
Rêve d'abandon.
J'étais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, tu vas aller chercher?
T'as le cancer généralisé.
Ah, voilà, Dr. Google.
ouais. On dit que le rêve d'abandon révèle une certaine angoisse, Audrey.
Hey, mais angoisse de quoi? J'avais hâte de te retrouver. Je n'étais pas angoissée pendant tout. Là,
ouais,
mais...
Mais
je suis angoissée ces temps-ci. Confidence, ça, c'est vrai.
Oui.
Je vis d'angoisse depuis quelques jours. Je vois mon été arriver, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Je vais arrêter d'en parler un moment donné, là, mais je me suis acheté une maison, je suis bien contente. Là.
Ouais. Un jour à la fois. Demain n'existe pas. T'es dans le moment le plus important de ta vie, c'est-à-dire maintenant.
Oui, non, mais t'as raison. La vie, c'est là. La vie, c'est maintenant. Mais tu sais, des fois, tu regardes ce qui s'en vient puis t'es comme, ouh, ça va être des ouais. mois rock'n'roll.
Moi, les rêves les plus poches, c'était quand je travaillais dans la restauration.
À cause?
Parce que je rêvais à mon
Au
travail.
Aux filles que t'auras jamais.
Pendant... Exact. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais je rêvais à mon travail.
OK.
C'était exactement, quand je rêvais, c'était exactement à l'endroit où je travaillais à tous les jours. Fait que les numéros de table, les numéros de banquette, je les connaissais par cœur.
Ouais.
Fait que dans mon rêve, là, tout était, tu sais, j'avais tout schématisé dans mes rêves. Puis quand on me parlait de la banquette 79, la banquette 80, fallait que j'aille porter des affaires, puis là, le client n'était pas là. Puis là, il fallait que je laisse son repas ou son drink au comptoir. Puis là, il revenait pas. Mais là, quand il revient, je m'envoie porter des affaires, il me dit que c'est pas à son goût. Mais là, le chef...
Est...
Puis je me souviens que, comme t'as dit, tu te réveilles pendant la nuit, puis tu te dis, hein, c'est parce que j'ai genre 3-4 affaires encore à faire avant de terminer mon corps de travail. Faut que je retourne dans mon rêve. C'est weird, là.
C'est vraiment spécial.
T'es toute mêlée. Tu dis, faut que je retourne dans mon rêve pour régler ça.
Ouais.
Mais tu dors.
C'est vraiment spécial. Puis le pire, c'est qu'on le sait, là, les rêves, ça dure quoi? 30 secondes, mais t'as l'impression que ça dure la nuit au complet. Tu vois, j'ai tapé « rêver du travail » pour savoir ce que ça veut dire. Et c'est écrit « C'est un signe que votre esprit est préoccupé par les responsabilités et vos objectifs professionnels.
» Non, ça doit
Excuse-moi,
je t'en
remise d'une grippe, c'était épouvantable. OK. Ça dit que ça peut refléter le désir de réussir, la peur de l'échec, le besoin de trouver un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Je vais réfléchir. Mais je te dis, j'ai rêvé à toi toute la nuit. Je me suis réveillée ce matin et je me suis dit, tabarnouche, je peux pas le laisser tomber.
T'es pas la première. T'es pas la première qui me dit ça. Non, moi, j'ai pas rêvé à grand-chose cette nuit, mais c'est ça. Des petits rêves angoissants comme ça pour le travail, là, on dirait que ça va jamais bien.
Non, c'est toujours le cauchemar.
Ouais. C'est comme un rêve érotique.
Ça va jamais bien dans ton cas?
Ça va jamais bien. Je réussis jamais à closer à patin.
Hey, moi, ça se passe toujours bien.
C'est vrai?
Ouais.
Au complet, là?
Ben, généralement, oui. Là, des fois, je me réveille même puis je suis surpris, là.
Ah ouais?
Ouais.
Puis c'est tout le temps, tu chopes?
Oui. Tout le temps. Tous les soirs. Non, mais c'est-tu quoi le pire? La réponse, c'est non, mais pas non parce que quelqu'un d'autre...
T'as-tu déjà dit? Garde ça pour toi.
On n'a jamais eu cette conversation.
Ouais, garde ça pour toi.
Garde ça pour toi. Non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a jamais quelqu'un d'autre. Mettons, c'est pas genre, c'est pas mon chum, c'est tel voisin.
Ouais.
Il n'y a jamais quelqu'un, c'est flou. Je pense que c'est comme si je me vois moi. Comprends-tu ce que je veux dire? Réagir à... Il n'y a jamais une face sur la personne.
Moi, j'ai
c'est pas Alex.
Un ami qui était assez honnête pour dire à sa conjointe qu'il avait rêvé à sa sœur.
Oh!
Donc à la sœur de sa conjointe. Et il n'a plus de conjointe.
Ah, ou charrette, elle l'a laissé pour ça.
Puis c'était juste un rêve. Ben, il devait avoir d'autres choses, tu comprends?
Oui, parce que là, un rêve à ma donné.
Mais ça faisait une couple d'années là, que le couple battait de l'aile.
Okay.
Mais tu ne dis jamais ces affaires-là.
Non. Ben, si c'est une fois, puis c'est drôle, puis c'est cocasse, moi, j'y vois pas de problème.
Non, non.
Non? Non. Dans ton expérience, c'est pas une bonne chose?
Ben, pas mon expérience. Moi, ça m'est jamais arrivé.
Moi, je parle trop avec mon
chum. Mais c'est sûr et certain que je le dirais pas. Je pense que tu as le droit d'avoir un jardin secret dans tes rêves. Ouais. Ça t'appartient, tu ne les contrôles pas. Mais si tu donnes l'information, tu dois vivre avec après les conséquences.
Puis tu sais, moi, mettons, demain matin, je rêve, je sais pas, là, un rêve érotique, ce qui est très peu probable, avec toi, Denis, puis Reg, OK, là? Puis genre, je me réveille, je risque de dire à mon chum, tu sais pas ce que j'ai vécu cette nuit? C'était weird. Puis je risque de vouloir le raconter parce que c'est improbable, tu comprends? Je pense qu'elle a la nuance. Je le cache pas parce que ça fait donc bien pas de sens.
Oui, mais non.
C'est jamais arrivé en passant, là, je veux juste jeter l'air.
Tu serais pas première.
Dans tes rêves.
Mais je pense que vous avez le droit d'avoir un jardin secret. C'est vos rêves, puis vous ne les contrôlez pas. Mais à partir du moment où tu libères l'information, là, l'information est libérée, puis la personne à qui tu as confié ton rêve, elle doit vivre avec ça. Fait que si ça touche sa sœur, si ça touche une de ses amies, t'es mort.
Ouais. Si tu parles ça implante une petite graine, on dirait.
Si
là.
Tu parles de... Ben, c'est peut-être goffé. Tu sais, je pense que ton petit chum, il rirait en disant « Ah, oh, ouais, Denis, Jeff... »
Voyons donc, ouais.
Yannick... Ouais. Mais je suis pas sûr que chez la femme, ça fait toujours le même impact.
T'as peut-être raison, mais ça dépend c'est qui qu'il y a dans son oreille.
T'es dans mon sac à préjugés.
Non, non, mais t'as peut-être raison.
Ben, admettons que c'est ta meilleure amie. Puis il dit que c'était vraiment hardcore, là.
C'est parce que ma meilleure chum, c'est Hello, t'es ri, tu sais.
Ben, mettons que c'est Hello.
Je serais morte de rire que mon chum me dise qu'il a passé la nuit avec des riz.
OK.
Mais je pense que ça dépend aussi de... Il y a plusieurs facteurs.
Faut qu'elle ait confiance en elle.
Exactement. Ouais. Ça dépend de plusieurs facteurs. Tu sais, moi, je sais que je suis bien dans ma relation puis que il y a rien qui me dérange sur ce qu'on a ou sur moi. Ou...
Fait que t'aurais pas peur t'aurais pas peur d'y poser des questions, genre, ben, c'était comment? Comment était... ben là, c'est parce qu'on parle d'une collègue, c'est un peu malaisant de le dire, là, mais mettons que c'est ta cousine.
Ouais.
Ouais, c'était, comment c'était? T'as-tu tout nu? OK, t'as-tu vu ses seins?
Qu'est-ce qu'elle t'a fait?
Qu'est-ce qu'elle t'a fait?
Ouais, comment ça a fini?
T'as-tu aimé ça? Puis s'il dit oui. T'es prête à vivre avec ça?
C'est des bonnes questions.
Moi, je vous le dis, les gars, là, écoutez pas Audrey, gardez tout ça pour vous autres. Confiez pas ça à vos blondes, vous allez vous mettre
ça
dans la
merde. Ça dépend, c'est qui ta blonde?
C'est Dr. Marceau qui vous le dit.
Oh oui, Dr. Marceau est tellement fiable.
Dr.
Mononcle. Le mononcle est important.
Dr. Mononcle, gardez vos secrets de rêve pour vous autres.
Et c'est bon, elle est où la limite du jardin secret en général? 88-971-1021. On dirait que moi, j'ai pas de malaise avec grand-chose, puis je me dis toujours, non, si toi, je suis bien d'en parler, c'est parce qu'il n'y a pas de problème.
Ah oui, c'est encore des images des Galeries de la Capitale.
Non, mais le jour où...
Chaque fois que j'arrive dans le stationnement des Galeries de la Capitale, je pense à toi. Tu m'as instauré un billet.
Mais regarde, retiens ça. Le jour où je vais avoir de la misère à te parler de quelque chose, parce que je vais avoir un malaise.
Mmh. Ben, mettons,
là, pour choisir des questions.
Je rentre aux Galeries de la Capitale, puis là, je regarde des voitures qui ressemblent à
potentiellement à la mienne.
Puis là, je regarde, y a-tu de la buée dans les fenêtres? Ah, y a pas de buée, Audrey pas là. Tu sais, c'est comme ça que je vois ça maintenant.
Oh, Seigneur.
Hey, aujourd'hui, ça va être un show le fun. On va jaser avec Guillaume Dulude, qui est consultant en psychologie et fondateur de Psycom. C'est quelqu'un que j'aime bien, avec qui c'est le fun jaser. Lui, se spécialise dans la psychologie des relations humaines. Bon, on va parler des pommes pourrites à la job ou encore dans notre entourage.
Ouais, tu sais, ces gens-là qui sont un peu toxiques, souvent qui sont. On les rapporte narcissiques. Là, on va faire le ménage dans tout ça parce que tellement. De termes. On connaît tous cette personne-là là, qui est comme le mouton noir. Puis t'as de la misère à comprendre pourquoi cette personne-là est le mouton noir. Puis c'est comme l'effet d'un groupe contre une personne. Puis c'est un peu tout ça qu'on va démystifier parce qu'on connaît tous cette personne-là à quelque part dans notre entourage, que ce soit dans la famille même des fois, au niveau professionnel, mais personnel aussi. Fait que ça va être un gros sujet, j'ai l'impression.
Puis on a reçu quelqu'un il y a de ça quelques jours qui a fait partie d'un panel de jury.
Oui.
Et l'intérieur de ce dit panel-là, lorsque c'est le temps qu'il y ait de la délibération, il y en a qui vont se ranger du côté de la majorité. Mm. Puis il y en a tout le temps un qui, lui, là, il n'est pas pressé. Puis quand bien même que la délibération peut durer 3-4 semaines à l'hôtel, ben ça ne dérange pas tant.
Non.
Puis là, toi, tu dis, attends un peu, on est rendu 11 là, à dire qu'il est coupable.
Pourquoi
toi, tu veux pas...
Mais c'est vrai!
Oui.
Il y a toujours cette personne-là qui sort un peu de la mêlée, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons.
Mais ça veut pas dire qu'il a tort.
Non, pas nécessairement. Donc, on pourra la poser aussi, cette question-là. Y a-t-il du positif à être cet individu? Exact.
Donc, on va parler des pommes pourrites dans notre entourage avec Guillaume Dulude. Fait que ça va être une belle jasette. Sinon, j'ai des petits trucs à vous jaser. C'est le temps de la période des impôts. Est-ce que c'est toi qui fais tes propres impôts?
Non, c'est mon chum qui gère les impôts à la maison. Il est fait à la main.
Lui, il fait ça à la main.
Oui, il fait ça de façon manuscrite.
Est-ce
encore.
Qu'il a appris ça à l'école?
Par son grand-père.
C'est
non,
son grand-père qui lui a montré ça.
Puis honnêtement, c'est du coup, moi, j'aurais aimé ça apprendre ça à l'école parce
Pourquoi ils nous ont pas montré ça à l'école?
C'est une foutue bonne question.
Je sais que ça paraît pas, mais je suis un petit peu plus vieux que toi.
Oui.
Puis.
Je t'aurais donné 25.
Les dinosaures qui nous enseignaient ne nous ont pas appris ça non plus.
Ah, mais tu vois, j'aurais pensé en plus qu'il y a une époque où ça aurait été.
Moi, j'ai appris à faire des études à crayon puis des boxeurs.
Au pelail.
Ouais.
On vole pas où, hein?
J'ai fait quoi aussi? Ben, d'ailleurs, les boxeurs, je les ai encore chez nous. Là.
Ah oui, hein?
Ouais, des fois, j'ai mis pour jouer au hockey.
Moi, je me souviens, par exemple, de cours où on a parlé de cartes de crédit, mais c'était très flou. Puis c'était un âge aussi où je pense qu'on n'était pas rendu là mentalement. Fait que je me demande comment on pourrait incorporer ça pour intéresser réellement.
Ça te stresse-tu, la période des impôts?
Ah, absolument. Ça m'angoisse bien réellement.
Même si c'est pas toi qui s'en occupe?
Oui, parce que tu sais jamais s'il va y avoir des erreurs, le montant que tu vas avoir à payer. Oui, ça me stresse tout le temps.
Puis toi, tu confies ça à Tichum, qui est pas
oui,
un
il est
comptable.
Vraiment bon. Ben, sais-tu quoi, par exemple? Il y a une chose, ça nous arrive de faire double vérifier. Oui, parce qu'on sait jamais.
Okay. Moi, j'ai la chance d'avoir une comptable depuis déjà quelques années. C'est sûr qu'à certains endroits, je suis travailleur, je suis employé. À d'autres endroits, je suis travailleur autonome. Puis à d'autres endroits, c'est une entreprise.
Tu as besoin d'eux, là.
C'est ça. Donc,
c'est simple.
J'ai besoin de cette comptable-là qui va être capable de tout sortir les papiers, toutes les classer. Puis moi, le classement, tu comprends que c'est pas ma force. Puis à la fin, là, en bout de ligne, elle me dit combien ça me coûte, puis combien je peux retirer.
Et t'exécute.
Puis je fais juste payer. Ça me coûte à peu près 600$. Là. Mais c'est le plus beau 600$ investi de toute ma vie. Mmh.
Parce que t'as pas à gérer, finalement.
Parce que j'ai pas à gérer. Mais t'as pas idée à quel point j'aurais aimé ça, avoir cette formation-là. Que ce soit au secondaire, que ce soit au cégep. Comment faire un rapport d'impôt puis tirer le maximum de ce que je peux de mon rapport d'impôt. Moi, j'ai la chance d'avoir Pat Raymond, qui est un ex-gestionnaire de patrimoine, qui vient faire son tour comme collaborateur une fois de temps en temps, qui nous en apprend sur les finances personnelles puis comment essayer de sauver de l'argent le plus possible. On dit qu'il y avait un cours d'économie optionnel au cégep là-dessus en 1988.
Et en 88, on est loin pareil, là.
Au cégep de Lévis-Lauzon, mais au cégep de Limoilou, moi, je n'avais pas ça. Et puis, d'après ce qu'on comprend, dans les sondages, ça fait partie des trucs les plus stressants à faire, les impôts. Mais si vous stressez à faire ça, c'est peut-être parce que vous n'avez pas les qualités nécessaires pour être capable
les
de remplir le rapport d'impôt puis être capable de tirer le maximum. Il y a des logiciels à cette heure que tu peux acheter qui vont essayer de t'aider, mais est-ce que ça, c'est optimum encore? Je ne le sais pas. Moi, mon comptable, mon comptable et mon planificateur financier travaillent de concert ensemble pour essayer le plus possible que je paye le moins possible d'impôts.
Non, puis c'est la meilleure des solutions, là.
Mais quelqu'un qui fait ça en main, faut vraiment qu'il soit à jour dans tout, là, parce que sinon, il peut échapper quelques virgules, on va se le dire.
Oui, puis c'est que c'est long aussi, là, tu sais. Je dis que mon chum fait ça en main, mais ça il prend littéralement deux fins de semaine, là. Parce qu'on prend, il fait deux fois, il se relit, il se double-check, qu'il fait pas ça dans la vie non plus. Fait qu'au-delà d'être stressant, c'est que c'est du temps en tabarnouche, là.
Il y a un sondage qui est sorti par Turbo Impôt. Qui mentionne un certain pourcentage qui est assez intéressant sur le nombre de Québécois qui disent avoir peu ou pas de connaissances sur la façon de remplir correctement leur déclaration de revenus. T'es-tu capable de m'évaluer le pourcentage? Combien de Québécois ou Québécoises qui disent hey, « Moi, j'ai pas les qualités et les connaissances nécessaires pour remplir efficacement mon rapport d'impôt. »
J'ai le goût de te dire 70 % des gens.
70, c'est ce que j'aurais dit moi aussi. C'est 54 %. Moi, je pense qu'il y a des menteurs un peu là-dedans.
C'est sûr qu'il y a des menteurs.
Mais tu sais, dans le temps, je jasais avec un gars qui travaillait pour une entreprise. Écoute, je pense que ça coûtait 25 ou 30 $ là, faire les impôts. C'est H&R Block. Ça se fait-tu?
Oui, ça c'est très possible. Mais...
Je pense que c'était l'affaire comme ça, puis il travaillait pour eux autres, puis il dit, t'as pas idée du nombre de personnes qui viennent nous voir, là, puis qui ont 4-5 années à faire de rapport d'impôt parce que ça les stresse, parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ils préfèrent ne pas en faire. Puis après ça, au bout de 5 ans, ils arrivent avec tous les papiers, puis ils donnent ça au comptable, malgré que lui, c'était pas un comptable. C'était un gars qui faisait des rapports d'impôts. Et lui, il se tape le boulot de 5 ans. Puis bien souvent, il y a un gros chèque qui arrive avec ça. Mmh. Tu sais, les gens sont stressés, fait qu'ils veulent pas le faire. Mais au bout de 4-5 ans, t'as un super de gros chèque qui apparaît parce que t'avais pas gagné assez ou t'en avais trop donné. Ou
il y a des gens qui ont peur de payer aussi. Ben, il y a des gens qui vivent dans le déni puis qui se disent « pas l'argent pour payer, me croiront après ».
Mais 4-5 ans de rapport d'impôt.
C'est gros.
T'sais, nous autres, on stresse, il faut en faire un par année. Ouais, eux imagine. Autres, il y en a accumulé 4-5. Là. Donc, c'est 54% des Québécois qui admettent avoir peu ou pas de connaissances sur la façon de remplir correctement leur déclaration de revenus. Moi, je pense que c'est par la lâcheté là, qui fait en sorte que j'ai toujours fait affaire avec un comptable pour être sûr d'être sur la coche.
Ben, honnêtement, moi, si mon chum ne les faisait pas, parce qu'il aime être en contrôle de ça, puis je pense qu'il aime savoir comment faire, mais si lui ne les faisait pas, c'est sûr que je ferais affaire avec un professionnel. Là. J'ai pas les capacités, j'ai pas la patience, puis... J'ai l'impression que ça vient toujours trop vite. Hein? Tu finis tes impôts, puis hop, on dirait que le lendemain, ça recommence. Là.
OK. Combien de Québécois ont admis se souvenir avoir appris à tracer un cercle avec un compas à l'école?
Ah, ben là, 90, là.
Toi, tu dis 90.
On s'en souvient toutes, là.
C'est 79% des Québécois, des Québécoises qui disent... Bon, donc 4 personnes sur 5 qui disent « J'ai appris, effectivement, à l'école à tracer un cercle avec un compas à l'école. »
Je me blessais avec cette affaire-là.
Parfait. C'est quoi le pourcentage des gens qui se souviennent d'avoir appris à remplir une seule déclaration de revenus à l'école?
Je veux dire 10 %.
10 %. T'es bonne, tu l'as-tu lu? Ou ben?
Zéro puis une barre, juré craché.
C'est 4 %. 4 % des gens qui disent « Oui, oui, à l'école, on m'a montré comment faire un rapport d'impôt. »
C'est pas beaucoup, hein?
Il y a une incertitude liée au logiciel d'impôt parce qu'on ne sait pas trop si c'est à la fine pointe de la technologie.
La sécurité aussi.
Mais
tout.
En même temps, je pense que c'est des... En fait, Turbo Impôt, là, c'est une bonne entreprise. Ils sont capables de faire un logiciel qui va faire en sorte que vous allez échapper la balle le moins possible. On dit que c'est les Québécois qui sont en tête de liste par rapport aux autres provinces canadiennes concernant la fameuse incertitude liée au logiciel d'impôt. 60 % des Québécois souhaitent se sentir plus en confiance en utilisant ce type de logiciel-là en ligne, ce qui est supérieur à la moyenne nationale de 50 %. L'envie d'apprendre. Combien de Québécois sur 100 ont le goût d'apprendre à comment faire une déclaration d'impôt?
Je trouve ça plus dur, ça. Je pense, avec un genre de 60 % parce que je pense qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas à tout.
Nos réponses se ressemblent beaucoup, mais là, on n'est pas en tout target. Moi, j'aurais dit 70-80 parce que de savoir comment le faire, je trouve ça vraiment intéressant. Peut-être parce qu'on est curieux. Là.
Ouais.
C'est ce qui fait qu'on fait ce métier-là. C'est 26 %
seulement?
C'est un Québécois sur 4 qui dit oh, « Oui, ça m'intéresse de savoir comment remplir. »
Mais on est lâche. Le moment où on sait qu'on a une personne de confiance qui peut s'en occuper, on recule. Puis dans toute sphère, là, ça, c'est les finances, mais je veux dire, on confie bien des affaires à des gens parce qu'on est trop lâche ou on n'a pas le temps ou on veut se concentrer sur autre chose. Prends une affaire banale comme le ménage, là. Je veux dire, on est combien à se prendre des aides ménagères parce qu'on veut pas s'occuper de notre propre ménage chez nous, ce qui est la base de l'entretien d'une maison?
Ouais.
Fait que je trouve que ce chiffre-là fait quand même du sens, mais j'aurais espéré qu'on soit plus curieux par rapport à ça.
Oui, mais le thinking sur le ménage à maison, on l'a déjà eu. Je sais pas si on avait abordé ça, mais moi, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait la vie très tard. Je sais que ça te surprend, là. Mais j'avais jasé avec un millionnaire.
OK.
Puis je disais, mais pourquoi tu fais pas ton terrain? Pourquoi tu fais pas ton gazon? Pourquoi tu fais pas ton déneigement de sol? Tu sais, tu sauverais encore là de l'argent. Si t'es millionnaire, t'as tout le temps besoin de sauver de l'argent.
On va te dire, le temps, c'est
les
l'argent.
Les millionnaires, c'est les plus cheap. Ben, il dit, pendant que le gars me charge 600$ pour l'année pour faire mon déneigement de cours, moi, je peux en faire combien d'argent de plus?
Ouais, c'est une façon de voir les choses.
Et moi, j'ai ramené ça parce que je suis vraiment pas millionnaire. J'ai ramené ça à ma vie au quotidien. C'est le fameux ménage, là. Combien de temps de vie que ça me prend par semaine pour faire le ménage? Puis c'est entre 2 et 6 heures par semaine. Mais si je prends une personne qui vient chez nous par semaine, qui vient 2 heures puis qui fait tout le travail de la semaine, malgré le fait qu'il faut que je passe la balayeuse, là, j'ai un golden tata chez nous qui perd 3 fois son poil par jour.
C'est épouvantable.
Fait que je passe quand même la balayeuse. Là, la semaine, c'est moins rare. Là. C'est plus le en soirée en semaine. Ouais, je sais, mais ça marche pas. J'ai 3 étages, ça marche pas pantoute, là. Puis le robot, il va tousser, là. Mes chats essayent de m'aider en mangeant le poil de chien, puis ils vomissent, là. Sérieux, le Golden Tata, c'est le pire chien à avoir si vous détestez le poil, là.
Ah oui, non, mais pour le ménage...
Fait que je passe la balayeuse à chaque soir, quand j'arrive chez nous, je fais les 3 étages, ça me gosse à chaque fois. Puis j'ai une aide ménagère qui vient chez nous avec son conjoint, 2 heures par semaine, puis la maison est clean.
Mais ça te donne du temps de vie supplémentaire.
Parce que moi, ça m'en prenait 6.
Puis, ouais, c'est ça.
Moi, ça m'en prenait 6 heures. Mais là, je les paye 2 heures, puis ça me donne du temps de vie, du temps de qualité de vie avec mes enfants,
ouais.
avec mes proches. Fait que quand j'avais eu cette conversation-là avec le millionnaire, moi, comme je suis pas millionnaire, je l'ai adapté à d'autres choses, puis je trouve ça très logique.
Mais tu vois, je trouve ça logique pour les finances aussi, parce que probablement que les gens qui font affaire justement avec des spécialistes, pour revenir à ce qu'on disait, ça leur enlève un stress à cette période-ci de l'année. Ils ne sont pas bons avec les chiffres, ils n'ont pas à y penser, ils font confiance à quelqu'un d'autre, eux autres, je veux dire, c'est du temps que tu récupères puis de l'énergie aussi, mine de rien, là.
Antoine qui nous écrit « Salut Yann, en tant que comptable, je veux juste te dire que les clients qui nous arrivent avec 4-5 années de rapport d'impôt, c'est vraiment pas le genre de client qu'on a envie d'avoir. »
Ah, mais ça, j'en doute pas, là. Ça doit être des pain in the ass, là.
Ben, c'est parce que c'est le tri de tes papiers.
Ben oui.
Tu sais, c'est des gens qui sont pas à leur affaire, ils manquent des papiers, le tri est pas fait, ils te pitchent ça en disant « Tiens, occupe-toi-en. »
Moi, c'est pas coupable, là. Je suis un peu de même, là. Tu vois, là, j'ai dit à mon chum, mais qu'on déménage, là, je veux qu'on ait un classeur avec des affaires bien claires, que je sais où sont les papiers, parce que je me suis rendu compte dernièrement que j'ai aucune idée où sont mes papiers du gouvernement. C'est tout lui qui gère ça. J'ai aucune idée où sont nos affaires importantes et sérieuses. Parce que lui s'occupe de ça, puis j'ai décidé de, comme, laisser aller. Mais tu sais, il arrive de quoi demain matin, là, Yann, là? Je suis dans la marde, là. Je suis pas au courant de rien, là. Fait que de là, l'importance pour moi d'avoir une curiosité, au moins, de savoir quoi faire, comment faire, où sont tes choses.
Mais tu sais, notre génération est pas si pire. Je t'inclus pas dans la mienne, mais toi, t'es dans une autre génération. Mais on n'est pas si pire si on regarde nos générations. Parce que les générations plus vieilles, eux autres, ils se distribuaient les tâches, puis on n'embarquait pas dans les tâches de l'autre, puis l'autre n'embarquait pas dans nos tâches.
Mais c'est pas bon, ça!
Ce qui fait en sorte qu'on s'est ramassé avec des grands-pères, grands-mères qui comprenaient pas comment aller au guichet automatique.
Oui.
Moi, j'ai connu la grand-mère qui va au guichet automatique et qui parle avec le guichet automatique parce qu'elle avait vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était derrière pour y distribuer l'argent.
Ah, voyons donc!
Puis elle parlait, puis elle était vraiment stressée parce que monsieur, lui, était décédé. Puis c'était la première fois qu'elle allait au guichet automatique. Puis c'était monsieur qui faisait ça.
C'est fou. Puis ça, c'est pas si loin, là. J'ai perdu mon grand-père l'an passé. Puis en discutant avec ma grand-mère, elle me disait « Hey, s'il avait fallu que je décède avant, ton grand-père aurait jamais été capable de vivre tout seul. » Parce qu'elle s'occupait de la majorité des choses dans la maison, justement, tu sais. Mais effectivement, il y avait un partage. Mais je... Tu sais, le 20... C'est quoi, 25, 24% t'as dit la stat des gens qui ont une curiosité...
L'envie d'apprendre.
À apprendre.
26%.
Hey, que ça devrait augmenter comme chiffre, là. Je trouve que c'est une petite cloche un matin, là. Ouais, mais... Essayez d'être conscient d'eux, du moins.
C'est ça. Mais eux autres, ils vivaient comme ça, tu sais. Mm-hmm. Monsieur, madame, ils faisaient leur affaire chacun de leur côté.
Ah ouais.
Puis une fois qu'il y en a un qui décédait, ils apprenaient ce que l'autre faisait de l'autre côté, à la dure, là. Mm-hmm. Tu sais, moi,
à travers un deuil, là.
Mon père me demandait de programmer le vidéo. Je veux dire, j'ai jamais demandé ça à mes enfants. Tu sais, peux-tu me faire ça au moins? Les trucs technologiques, je les connais. Mais les parents, eux autres, ils se fiaient beaucoup sur les autres pour continuer d'avancer. On a tous fait ça. Les jeunes de ma génération, là, ils programmaient toutes les vidéos pour leur père, pour qu'ils puissent écouter leur game de hockey, leur film, leur petite vue, comme ça. Ils appelaient ça de même. C'est, je trouve qu'on a beaucoup progressé par rapport à ces générations-là. Donc, voilà. Sinon, j'ai le goût de te parler de quelque chose que j'ai vu passer sur le site de Radio-Canada.
Hein?
T'as-tu déjà copié, toi?
À l'école?
À l'école. T'es-tu déjà organisé avec des collègues, garçons comme filles, pour pouvoir faire des travaux plus rapidement ou avoir les questions d'examen à l'avance, les examens de l'an passé?
Ça, non, j'étais trop heureuse, mais j'ai déjà écrit. En fait, sais-tu quoi, je vais te dire, j'ai-tu déjà copié, j'ai déjà essayé. J'y suis jamais arrivée. Moi, j'écrivais les réponses d'examen sur ma cuisse puis sur ma gomme à effacer. Mais j'étais trop heureuse de prendre ma gomme à effacer ou de lever ma jupe de peur que le prof me voie. Fait que, j'ai déjà essayé de tricher.
Tu mettais tes notes dans ta jupe?
Sur ma cuisse, oui. Puis sur ma gomme à effacer.
T'écrivais sur ta cuisse tes notes?
Oui.
Puis sur ta gomme à effacer?
Oui. Puis tu sais, mettons, des fois, on avait droit en mathématiques, mettons, à une feuille aide-mémoire. J'écrivais super petit pour être capable de tout rentrer. Puis ce qui rentrait pas, ben je l'écrivais aussi sur ma gomme à effacer.
OK.
Mais j'ai toujours été trop heureuse de l'utiliser de peur de me faire pogner.
Nous fait autres, c'était à l'intérieur de la main.
Hey, mais ça, c'est parce que ça se voit. Non. C'est le prof et pas tata, là.
Ben, mais je veux dire, tu mets ta main dans ton hoodie, là.
Ouais,
nous autres, on appelait ça les gilets capuchons. On a de l'air un peu arriérant en disant gilets capuchons, là. Mais on mettait notre main dans notre hoodie ou on mettait notre main à plat sur le bureau. Puis quand le prof regardait pas, bon, on mettait notre main de côté, là, à la verticale. Puis on regardait les réponses qu'on avait écrites, là.
Arrête donc!
Ben oui.
Hey,
ben
mon oui. Dieu, non, j'étais pas comme ça.
Puis on copiait sur notre voisin, là. On l'appelait le nerd, puis on copiait, là. Tu sais, Pierre-Sébastien Gauthier, là, qui vient ici une fois de temps en temps comme chroniqueur, là. Lui, c'était mon partner idéal, là. C'est un génie!
Fait que tu te mettais pas loin.
on était des chums!
Mais pour les devoirs, j'avoue que je me mettais ami avec les meilleurs, là. Ouais. J'ai même passé un cours au cégep à cause de mon chum, là. C'est le même qu'on s'est rencontrés.
Ah oui!
Ben, mon chum était vraiment un bolé, là.
C'est comme ça qu'il t'a attiré? En étant un bolé à l'école, il t'a permis de copier sur lui?
Ben, Il m'a aidé dans beaucoup de travaux, tiens.
Non, mais c'est arrivé dans une école qui est assez proche de chez nous, au centre scolaire des Premières Seigneuries, précisément à l'école Les Sentiers, à Charlebourg. Il y a une professeure qui s'est aperçue qu'il y avait deux élèves qui avaient copié l'une sur l'autre. Puis en discutant avec les autres profs, il y a un autre groupe qui avait à peu près les mêmes réponses ou le même travail que les deux petites élèves de l'autre côté.
Fait que ça s'est promené.
Donc, ils ont décidé de mettre zéro à tout le monde.
Ouch.
OK. Sauf que si t'es le propriétaire de l'enfant qui n'a pas copié, mais que tu te vois mais que ton enfant se voit attribuer la note de zéro,
c'est injuste.
Tu fais quoi, Audrey? Ton enfant te jure qu'il n'a pas copié, mais parce qu'il y en a trois autres qui ont les mêmes réponses que lui.
Ben, je pense que j'essaierais de dealer avec le professeur à savoir s'il n'y a pas moyen d'avoir un travail compensatoire, là.
Oui. Ce qui est une bonne stratégie.
Oui. Mais si la réponse est absolument non, ça dépend aussi. Si ça compte pour 40 % de la session, ça se peut que je m'ostine un peu en voulant dire, voyons, ça n'a pas de sens, là.
Ouais.
Mais honnêtement, si la réponse est non, c'est zéro pour tout le monde, ben, on dirait que pour moi, il y a une leçon derrière ça. De quand tu fais de la merde, tu peux faire payer les autres.
Okay.
Que je...
Mais si t'es le propriétaire de l'enfant, qui était le Mont-Pierre-Sébastien Gauthier, là,
oui.
Puis que les autres copiaient sur lui, je veux dire, en quoi lui doit être responsable du copiage?
Oui, ça on s'entend, mais comment tu le sais?
Ben, c'est ce que je te dis.
Tu peux pas le savoir.
Mais sauf que c'est ton enfant qui dit, « Maman, Audrey,
je te jure.
T'es ma propriétaire. » Je te jure!
Oui, mais combien de fois tes gars t'ont dit que je te jure?
J'ai pas copié. Pis... Mes gars, tous les jours.
Ben, tu vois, tu viens de faire mon point. J'aurais comme de la misère à me placer.
OK.
Puis je veux pas, moi, être ce
parent-là. T'as pas confiance en ton enfant?
J'ai confiance à mon enfant, sauf que je veux pas être ce parent-là qui est gérant d'estrade. Ce qui se passe à l'école, ça se passe à l'école sous les règles de l'école.
Entièrement d'accord.
Fait que c'est plus ça le point. Je pense que ça serait pour moi une porte, par exemple, pour avoir des discussions avec mon kid. Sur voici ce que ça donne quand.
Moi, je leur dirais, je dirais à mes gars, regardez, vous autres, vous n'avez pas copié, mais vous n'avez pas caché vos notes, ce qui fait en sorte que les autres ont copié sur vous, si c'est le cas, et vous obtenez la note de zéro, et c'est le professeur qui décide. Ça s'appelle la vie. Oui, mais c'est injuste. Ben la vie n'est pas obligée d'être juste avec
mais
toi, mon grand.
Si je sais que mon enfant, mettons, c'est un bolé, puis il est apprécié des profs, puis que clairement, pour tout le monde, là, c'est sûr que c'est pas lui qui a copié, j'essaierais vraiment d'avoir un travail compensatoire. Pas de faire augmenter la note de mon enfant, mais de m'arranger pour qu'il y ait un autre travail à ce moment-là où il est évalué solo, puis qu'il puisse avoir une note qui lui appartient.
Ouais. L'enseignante dans le dossier, je donnerai pas son nom, là, on me l'a transféré, là, mais l'enseignante dans le dossier... Elle a eu la même attitude que toi. C'est-à-dire, je ne sais pas qui est-ce qui a copié sur qui, mais je vais leur faire faire un travail compensatoire, puis je vais leur attribuer une note qui va faire en sorte que ça va compter comme si c'était bel et bien l'examen. Et ça a été refusé par une famille. Une famille de Québec qui ont dit non, nous, notre enfant, je suis propriétaire de mon enfant et mon enfant ne peut pas faire d'erreur comme ça, ne peut pas avoir copié sur les autres. Donc, je poursuis la commission scolaire des Premières Seigneuries. Je demande l'annulation de la note octroyée et je demande 40 000 $ en compensation à l'école pour ne plus jamais que cette situation-là arrive.
40 000 $
40 000
$ Pour justifier quoi, dans le fond?
Que leur enfant n'avait pas à se voir
être
attribuer
accusé,
une note de zéro.
C'est ridicule.
Et ça s'est ramassé en cours supérieur, Audrey.
Voyons donc. Et ça, c'est du temps puis de l'argent à perdre.
Et, la famille a été déboutée en cours supérieur. Pourquoi? Parce que la professeure a fait la bonne chose, c'est-à-dire, je ne sais pas qui est-ce qui a copié. Moi, je vous donne un travail compensatoire. Vous devez faire ce travail compensatoire-là, puis je vous attribuerai une note comme ça.
Ce qui était
la bonne chose à faire. Mais les parents étaient persuadés que leur enfant était non responsable
dans cette
situation-là.
Mais c'est qui ces gens-là?
Je sais pas.
C'est qui ces gens-là qui viennent d'une lignée d'humains si parfaits?
Je sais pas.
C'est fascinant.
Moi, j'aurais accepté le travail compensatoire pour mon enfant, c'est-à-dire tu vas le faire dans un local seul, puis si t'es vraiment la bolle sur laquelle les trois autres ont copié,
tu vas avoir la note.
Ben, tu vas avoir toute une note, mon fils.
Hey, c'est capoté, là.
Ouais.
Mais moi, en partant, je suis l'enfant, je suis complètement gêné, là, de un. Là.
Ouais.
Puis de deux, toi, t'es un parent, t'as une vie, t'as un emploi, t'as une famille et t'as le temps de te rendre en cours supérieur dans notre système de justice pour justifier un zéro de ton enfant qui vaut probablement 10 % de son année.
Tu dis 10 % de son année?
Bien, je sais, j'ai pas lu ce que tu me parles.
C'est le punch de la fin.
C'est combien de pourcents?
1,5 %
de l'année?
De la note finale du cours de français de l'année.
C'est ridicule. Brûlez-les, s'il vous plaît, le voyons donc.
Tu veux dire les parents?
Bon, je te l'ai un peu fort. C'est une façon de parler, OK?
OK! C'était pas littéralement brûler les parents.
Non, c'est ça. C'était, voilà. C'était juste une expression.
OK! Bon, si on a encore notre job, on va être là dans 2-3 minutes. Les vulgaires machins, OK, sur le boulevard. Les news de Max s'en viennent.
Je ne suis pas... Puis ta série préférée à la télé. Fais ta réserve pour l'hiver. CaféSobab.com.
Open mic! Avec Marceau et Audrey Pinchot.
On est en grande discussion avec notre prochain invité. 10h43, c'est moins 1 degré sur Québec. C'est nuageux, mais malgré le fait que je vois quelque peu des éclaircies à certains endroits là, au-dessus de la région de Québec, entre 10 et 15 mm annoncés aujourd'hui, donc on va parler de pluie. Des rafales à 50 km/h qui devraient arriver en mi-journée, maximum de 9 degrés. Ce soir, cette nuit, des averses, nous dit-on, avec des rafales à 50 km/h. Ça va brasser aujourd'hui, Audrey. Ça n'a pas l'air de ça présentement parce que ça semble être très calme, là, mais la météo va être très changeante dans les prochaines heures. Mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 4. Jeudi, ensoleillé avec un maximum de plus 2 degrés. Et vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 8 degrés. Pour nous joindre en studio, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. On a tout un sujet pour vous dans les prochaines minutes qu'on va aborder avec Guillaume Dulude, qui est doctorant en psychologie recherche et fondateur de Psycom. Se spécialise dans la psychologie des relations humaines. Et le sujet d'aujourd'hui avec Guillaume, c'est la pomme pourrie dans notre entourage. Comment en faire pour s'en débarrasser? Comment gérer cette fameuse pomme pourrite quand c'est un membre de notre famille, quand c'est un ami, quand c'est un collègue? C'est le genre de situation qu'on a tous vécu. Là.
Ouais.
Heureusement, c'est pas toujours la même personne qui est la fameuse pomme pourrite. Puis en même temps, je me pose ces questions-là. Est-ce que j'ai déjà été la pomme pourrite de quelqu'un?
Ouais. Cette personne-là un peu toxique pour quelqu'un d'autre.
Donc, on a dérangé Guillaume Dulude là, qui est en train de faire des cours de para... Salut, Guillaume!
Allô!
Tu fais un cours de para...
Paramoteur.
Fait que il a atterri pour nous pendant quelques minutes.
C'est smart
là,
pareil.
Ben oui, c'est gentil. Mais Guillaume est tout le temps gentil. La pomme pourrite, là, on la détermine comment, Guillaume?
C'est vraiment la question de base à se poser. Parce que comment tu détermines une pomme pourrie? Est-ce que c'est qu'on s'entend pas bien avec une personne, fait qu'on décide qu'elle est pourrie pour nous, ou c'est une personne qui ne fonctionne pas bien par nature, ce qui est un tout autre sujet, et comment on différencie les deux?
Est-ce qu'on a perdu Guillaume?
Guillaume? 1, 2, 3, 4.
Est-ce que t'es toujours là? On a perdu Guillaume.
Ah non, arrête, avec ça a comme gelé, hein?
Ouais, on va se rebrancher.
J'étais tellement attentive, je vais, je vais lui écrire.
T'es-tu posé cette question-là? Comment on détermine une personne pourrite? Puis t'as-tu déjà été la pomme pourrite
de quelqu'un? Bien, en fait, moi, ça fait partie de mes interrogations à savoir, est-ce que c'est comme des traits de personnalité innés ou justement, c'est vraiment une question de mésentente avec quelqu'un d'autre?
Ouais.
Parce que ça arrive des fois là, où tu t'entends simplement pas, tu sais pas pourquoi, puis tu peux rien faire. Là. Puis à ce moment-là, je détermine pas ça comme une pomme pourrite. Pour moi, une pomme pourrite, c'est quand il y a assez d'individus qui sont capables de dire que cette personne-là est problématique.
OK. Fait que là, toi, c'est les autres qui vont te dire que t'as un bon jugement concernant la pomme pourrite.
Ben non, mais je me dis juste, si t'es 10... Ma mère, elle m'a toujours dit, Audrey, si t'as une personne qui te dit que t'es nounoune, tu peux mettre ça de côté. S'il y en a 10, commence à y penser. C'est une expression en voulant dire comme si t'es rendu une gang à penser qu'il y a une personne qui est problématique, c'est peut-être qu'effectivement, il y a un problème à quelque part. On a retrouvé Guillaume.
Salut Guillaume. Donc, on parlait de la détermination de la pomme pourrite.
C'est ça. Je pensais à cette question-là. Je pense qu'il y a deux scénarios stéréotypés. Le premier scénario, c'est une personne qui fonctionne pas bien socialement, très associée au trouble de personnalité. Donc, un trouble de personnalité, ça va être difficile en groupe. Puis peu importe dans quel groupe tu mets cette personne-là, elle va comme toujours être en conflit ou contrastée avec le groupe. Ça va être difficile de s'entendre avec elle. Puis même si avec un groupe, ça ne fonctionne pas bien, tu la déplaces dans un autre groupe et il y a une espèce de récurrence, il y a un pattern. Quand ça arrive, là, ça commence à être toucher plus là, la personne qui ne fonctionne pas. Comme par exemple, un trouble de personnalité narcissique ou borderline, tu la mets dans un groupe ou dans un autre groupe, elle ne fonctionnera pas très, très bien. Donc là, on a comme une espèce de ce qu'on appelle test-retest. Puis là, c'est comme, est-ce que vraiment c'est le groupe le problème? À chaque fois, les chances commencent à être minces. Puis là, on peut se dire, mais comment ça se fait qu'un trouble de personnalité a rentré là ou a été engagé? C'est qu'à l'entrevue ou à l'embauche, sur papier, ça peut être étincelant. Elle peut avoir un super CV, un super background. Et aussi, il y a certains troubles de personnalité, comme le trouble de personnalité narcissique. Ce sont des gens très extravertis. Donc, la séduction est très, très forte lors de l'entrevue, puis c'est très éclatant. Donc, ça donne le goût de confier des tâches à cette personne-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va bien fonctionner en groupe. Fait que là, on est dans un cas là, plus de pomme pourrie, mettons. Là. C'est le dysfonctionnement de cette personne-là.
Ouais.
Et l'autre cas, c'est une personne qui peut être un peu différente, OK, qui y a des idées différentes, qui est un petit peu plus excentrique, mais qui n'est pas dysfonctionnelle. Mais elle ne s'entend pas avec le reste. Et d'autres personnes peuvent faire des coalitions pour être sûres de l'isoler et faire en sorte qu'elle ait l'image de la pomme pourrie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a un trouble de personnalité. Ça peut être une question de fit, et un fit avec d'autres personnes qui font des espèces de... un peu de poignardage dans le dos. Là. C'est comme une espèce de jeu politique social qu'il y a dans des groupes. Donc ça, c'est un autre scénario.
OK. Quand on est une pomme pourrite dans une entreprise, est-ce qu'on est au courant qu'on l'est?
Si on parle de troubles de personnalité, d'habitude, non. D'habitude, les troubles de personnalité n'ont pas cette conscience-là. C'est la raison pour laquelle elles maintiennent des comportements inadéquats et les transfèrent d'un système à un autre. Donc, il n'y a pas cette conscience-là. Déjà, un trouble de personnalité, une personne qui n'a pas de trouble de personnalité va se remettre en question. Pour dire, c'est-tu moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Il va y avoir une espèce d'introspection, d'admission de peut-être que j'ai fait ça, peut-être qu'il faut que j'aille m'excuser auprès de telle personne. Il y a une introspection. Les troubles de personnalité, c'est plus là dans une espèce d'angle mort. Donc, ils n'ont pas tendance à se remettre en question beaucoup.
Est-ce que tu adresses la situation avec une personne comme ça, qui est pomme pourrite, qui est toxique dans un environnement, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton cercle ou au travail, ou ça vaut même pas la peine à un certain point?
Ça, là, c'est vraiment... Puis je pensais à cette question-là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a aucun scénario qui est pareil et c'est toujours difficile. Donc, je dirais le facteur qui a considéré, c'est à quel point cette personne-là peut se sauver de sa responsabilité ou de la conversation. Donc, comment une personne se sauve? Elle peut dire que ce n'est pas elle le problème, donc transférer la responsabilité sur une autre. Elle peut se dire « je suis victime d'intimidation », donc elle va utiliser la victimisation et elle va utiliser un pouvoir hiérarchique supérieur pour se protéger, différents boucliers comme le syndicat, des groupes qui vont la protéger. Donc, c'est très difficile cerner une personne comme ça, et plus le système est grand, ou l'équipe est grande, ou l'organisation est grande, plus il y a des façons de se cacher. C'est pourquoi on n'est pas capable, légalement ou illégalement, de se débarrasser de cette personne-là qui ne fonctionne pas.
Puis
Donc,
est-ce que tu
souvent, on...
est-ce que
Oui,
tu peux, excuse-moi
dis-moi.
Guillaume, est-ce que tu peux te permettre de l'adresser directement? T'sais, parce que j'ai comme l'impression que ça peut devenir un peu touché. Fait que est-ce que tu peux prendre les devants avec ce type d'individu-là? T'sais, je sais pas, moi, demain matin, je me rends compte que ma belle-sœur, c'est une pomme pourrite dans la famille. Je fais quoi avec? Ça se dit-tu à cet individu-là ou de toute manière, elle va repousser les commentaires puis on va nulle part?
Alors, c'est là où, selon moi, des habiletés interpersonnelles, des habiletés de coaching, des habiletés psychologiques plus poussées sont nécessaires. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas juste flusher les gens dans la vie. Il faut que tu commences par une espèce de gradation de moyens avant de faire eject. Okay? Donc, il faut commencer par du dialogue, il faut commencer par se parler, il faut commencer par cerner les bons sujets de conversation. Mais tout ça, c'est un grand art. Donc, tu peux pas, il faut que tu choisisses ton angle de conversation en fonction de la relation que tu as avec cette personne-là. Donc, tu as un calcul, c'est-à-dire avec la relation avec cette personne-là, est-ce que je peux aborder ça? Puis, tu as des ratios qui rendent un sujet possible ou impossible dans le moment présent avec une personne. Fait que tu as des forces qui compétitionnent logiquement quand tu es en rapport avec l'autre personne. Mais là, ça dépend de ton habileté à toi. Plus une personne est développée sur le plan psychologique, plus elle a des ressources et des stratégies, plus elle va avoir l'habileté.
Parce qu'on vient
Non,
encore de le
pas
perdre.
encore.
Mais je trouve ça intéressant, les discussions avec Guillaume. Puis je pose la question comme ça, tu sais. En avez-vous dans votre entourage des pommes pourrites? Est-ce que vous avez déjà adressé ce type de sujet-là avec cette dite pomme pourrite-là? C'est-à-dire, peu importe où on te met, dans ta famille, au travail ou dans des activités sportives où tu dois faire le travail en équipe, ça fonctionne jamais. En avez-vous de ce type de personne-là, 418-971-1021, 418-971-1021? Puis est-ce que vous avez déjà été une pomme pourrite quelque part? Puis est-ce que ça se guérit? Moi, c'est surtout ça que je veux poser comme question à Guillaume dans les prochaines
Tu peux-tu
minutes.
vraiment évoluer de ça? Mais en même temps, si
Donc,
tu le sais pas, tu t'en rends pas compte, puis c'est un trouble de personnalité, c'est difficile, là.
Communiquez avec nous, 418-971-1021 par texto. Et Guillaume, si j'ai déjà été une pomme pourrite ou si je suis atteint du fameux syndrome de narcisse, là, je peux-tu me guérir seul? J'ai-tu besoin d'aide psychologique? Qu'est-ce que je dois faire pour essayer de m'améliorer et de ne plus jamais être cette dite pomme pourrite-là? Est-ce que tu m'entends,
Alors,
Guillaume?
je suis de retour. Désolé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe côté connexion. J'ai manqué le début de la question,
OK.
Yannick, si tu peux me la répéter.
Ma question est, si je suis cette pomme pourrite-là, j'ai l'impression que, je sais pas, moi, je regarde le syndrome de Narcisse, puis là, je lis un peu sur la psychologie, ce qu'est le narcissisme et tout ça, puis je me dis, coudonc, ça, c'est moi. Y a-t-il quelqu'un qui peut me venir en aide? Est-ce que moi, personnellement, je peux me venir en aide? Est-ce que je dois absolument consulter des professionnels? Est-ce que ça se guérit, ce fameux syndrome-là? Parce que ça doit être un calvaire pour ces gens-là qui ne fitent nulle part.
Je te dirais, le nerf de la guerre, c'est la capacité d'introspection, la capacité de se remettre en question. Déjà là, si tu dis, coudonc, suis-je narcissique, puis je veux pas être ça, tu es automatiquement sur la bonne voie parce que tu vas être perméable à des informations qui te permettent une adaptation, une flexibilité comportementale. Alors, une pomme pourrie, je dirais par définition, implique une rigidité, c'est-à-dire une incapacité à s'adapter aux changements sociaux ou environnementaux. Si tu te poses la question sur comment m'adapter, automatiquement, c'est presque ça t'exclut de troubles rigides, de troubles de personnalité. Donc, les remises en question sont super bonnes et tu es automatiquement sur la bonne voie. Maintenant, comment tu fais pour t'améliorer? Ben oui, tu peux avoir un thérapeute, tu peux te faire coacher ou tu peux parler aux gens, de dire qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu n'as pas aimé que j'ai fait et tu peux avoir des discussions avec plusieurs personnes. Donc, tu n'es pas nécessairement obligé d'aller consulter un professionnel parce qu'à un moment donné, tout le monde a, à un moment donné, des conflits. Des fois, tu ne fites pas à certains moments. Des fois, tu vas moins bien. Puis des fois, tu es fermé d'esprit. Puis là, tu t'en rends pas compte. Là, tu prends un pas de recul. Puis c'est comme ça que tu utilises des dialogues pour dire qu'est-ce que je peux apprendre de ça. Donc, il y a définitivement des stratégies autonomes qu'on peut prendre.
comment on peut se protéger, je vais dire, de l'influence négative sans autant exclure une pomme pourrite? Parce que j'ai l'impression que quand c'est dans une entreprise ou dans une famille ou un cercle d'amis, ça devient lourd des fois pour certaines personnes. T'sais, tu veux pas complètement exclure parce que j'imagine que t'aimes de base des fois l'individu, surtout quand c'est familial. Mmh. Mais quand même, ça peut devenir lourd dans des événements, dans des communications aussi.
Tu veux savoir comment on peut continuer à vivre aux côtés d'une pomme pourrie? C'est quelque chose comme ça, ta question?
Oui, si je la simplifie. J'ai mis beaucoup de flafla autour de ma question, t'as raison.
Non, c'est correct. Je veux vraiment bien répondre. Je pense que, j'aime pas cette expression-là, mais ça prend un certain lâcher-prise. C'est-à-dire, tu peux pas centrer ta vie autour de cette personne-là, parce que ça va devenir dangereux. C'est-à-dire, il faut savoir quand est-ce qu'arrêter de travailler obsessionnellement sur cette personne-là et investir sur les relations qui fonctionnent bien. Je dirais l'esprit d'équipe, avoir un cœur d'esprit d'équipe, sans utiliser cette équipe-là pour rejeter l'autre personne, parce que c'est ça la tentation. La tentation, c'est tu vas aller chercher des armes avec les autres pour te sentir plus fort contre cette personne-là qui t'irrite. Alors, le défi, c'est de ne pas faire ça tout en consolidant des liens qui sont positifs, mais sans te monter une armée contre cette personne-là. Ça, c'est très, très difficile parce que la nature humaine veut faire des alliances et veut donner une pichenote à celle qu'on n'aime pas. La nature humaine est comme ça. C'est très difficile à résister. Je dirais que ça serait le défi et une solution aussi.
J'ai une question qui a l'air très philosophique, mais pourquoi certaines personnes font sortir le pire de nous-mêmes et d'autres le meilleur?
C'est une bonne question. D'habitude, les personnes qui font sortir le pire, c'est qu'ils nous mettent en pleine face des choses qu'on évite fortement ou des choses auxquelles on est instinctivement allergique ou des choses qui sont contraires à nos valeurs, à nos comportements. Et ces personnes-là nous forcent à quelque part à faire face ou faire des choses qu'on ne veut pas. Et donc, cette lutte-là va passer par le rejet de cette personne-là. Et puis, pour rejeter une personne, il faut que tu sois fâché contre elle. Donc, le rejet passe par la colère. Donc, si une personne implicitement ou explicitement te force à briser des lignes ou des limites, ton cerveau va vouloir travailler à rejeter cette personne-là en utilisant la colère. Donc, la colère fait ressortir ce qu'on appelle le pire dans nous. Mais c'est parce que la personne nous force à aller dans des territoires qu'on s'est dit qu'on n'allait pas. Et là, ce qui amplifie cette colère-là, c'est que cette personne-là, elle passe comme inaperçue, comme si elle fait rien de mal. Fait que t'es comme pogné avec le problème, comme si c'était pas de sa faute. Fait que t'es en colère contre toi-même parce que tu le sais que t'as des petites choses à travailler, donc t'es fâché contre toi et t'es fâché contre l'autre. Donc, le pire, c'est quand t'es fâché contre toi-même et contre l'autre. Donc, ça, c'est le pire. Ça.
Guillaume,
et le meilleur...
Oui.
Oui, excuse-moi.
Et le meilleur...
Oui, le meilleur, ben, c'est une personne qui te permet facilement de te valoriser, c'est-à-dire que qui te permet de manifester des choses qui te situent le plus haut possible sur la hiérarchie sociale. Donc, les humains sont obsédés par la hiérarchie sociale et on veut toujours briller. C'est ce qu'on appelle le meilleur de nous. On dit, c'est un contexte où une personne, grâce à cette interaction-là, le meilleur de nous, c'est-à-dire nos forces ressortent et nos forces nous placent supérieures sur le plan hiérarchique. Donc, on se sent toujours bien quand on est supérieur hiérarchiquement. À l'inverse, une personne qui fait sortir le pire, c'est qu'une personne nous force à montrer des faiblesses et donc on n'est pas avantagé sur le plan hiérarchique. Donc on est désavantagé sur le plan hiérarchique et les humains sont allergiques à ce que j'appelle les rétrogradations hiérarchiques. Donc on veut éliminer les personnes qui nous forcent à être plus bas dans les échelles hiérarchiques.
Guillaume Dulude, doctorant en psychologie, recherche et fondateur de Psycom. Je m'excuse, je te pose beaucoup de questions sur cette dite pomme pourrite-là, parce que moi, j'aime bien comprendre l'être humain, puis ce côté-là d'être une pomme pourrite ou d'être une personne qui est narcissique. Je sais pas, c'est un peu comme les séries sur la mafia et tout ça, ou les psychopathes.
Ouais. Ça te fascine.
Je veux savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. C'est le mindset de ces gens-là qui, peu importe où ils sont, que ce soit dans dans leur famille, que ce soit au travail ou encore dans leur équipe sportive, d'être constamment en conflit tout le temps, à un moment donné, ils doivent se rendre compte que la Terre ne tourne pas comme ils veulent. Le réflexe de se dire « Attends un peu, là, ça va pas bien dans aucune des sphères de ma vie quand je suis en interaction avec d'autres personnes. » Tu dois te poser des questions. Pourquoi eux ne s'en posent pas et font pas le diagnostic de, comme vous avez jasé tout à l'heure les deux, de « Attends un peu, là, visiblement ça va pas, puis je dois recommencer à bâtir une autre version de moi-même qui va peut-être être plus en accord avec ce que je voudrais être et ce que les autres s'attendent de moi. »
C'est que le problème, c'est que tu as un raisonnement beaucoup trop logique et sain.
C'est la première fois qu'on me dit ça, Guillaume. Merci.
Mais c'est qu'une personne qui est problématique, il n'y a pas ces concepts-là ou ces phrases-là qui viennent à l'esprit parce qu'une personne qui a maintenu des comportements inadéquats a réussi, à cause de certaines habiletés, parce que des personnes qui traînent des problèmes comme ça ont réussi à s'en sortir toute leur vie. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi à éviter le problème qui est eux. Puis il y a plein de façons de s'en sortir et de contourner ça. Par exemple, tu t'entoures de personnes qui dépendent de toi. Tu t'entoures de personnes qui ont des troubles de personnalité dépendantes. Comme ça, ces personnes-là vont continuer à t'admirer. Et tu vas rester sur le dessus hiérarchique. Donc, une personne qui a réussi à entraîner l'environnement, à s'adapter à eux, vont maintenir leur statut hiérarchique dans leur tête. Donc, toi, tu arrives de nulle part, tu dis, il faudrait que tu évolues. C'est comme des humains, ça ne veut pas ça. Ça évolue juste si c'est sur le bord du précipice. Tant que ce n'est pas sur le bord du précipice, il y a statu quo. Il n'y a pas de remise en question. Des humains, c'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, obsédés par le statut hiérarchique. Et si ils sont protégés par une hiérarchie, ils restent au-dessus de cette hiérarchie-là, quand même qu'il y a des personnes qui arrivent pour attaquer ça. Ils vont réussir à déflecter ça, ils vont réussir à éviter ça. Donc, il n'y aura aucune remise en question de leur part. Donc, la seule façon, ça serait de les coincer d'une façon absolue, mais là, tu t'exposes à de l'agression. Si tu rends une personne comme ça qui réussit à éviter les remises en question toute sa vie et tu réussis à la mettre dans un coin...
On l'a encore perdu.
Oh non, là, mais là, je voulais la suite, là. Tu réussis à la mettre dans un coin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tu la mets dans un coin?
Oui, on veut savoir. Il va revenir, là. Ça sera
j'étais
pas long.
Pendu à ses lèvres, moi, là.
Ouais. Ben, je pense que les auditeurs sont très, très heureux d'entendre Guillaume Dulude. Qu'est-ce que ça dit par texto?
Il y en a qui nous confirment que tu peux te sortir de ça. Il y a quelqu'un qui nous dit « Salut, gang, moi, j'ai déjà été la pomme pourrite durant mes années de consommation, j'ai syndrome d'auto-sabotage.
Okay.
Fait que j'ai eu à faire beaucoup, beaucoup de travail, mais sur le long terme, ça a terminé par fonctionner. Oh, Guillaume est de retour!
Donc, il était rendu où, Audrey?
Le lion dans le coin. Le lion dans le coin va te sauter au visage.
Voilà.
C'est ça, je voulais savoir. Mais ouais, là, répète juste le concept pour les gens qui nous ont peut-être perdu un peu, là.
C'est que si une personne qui a réussi à se remettre, à éviter de se remettre en question... très longtemps, elle se retrouve dans une position où elle n'a pas le choix et n'est plus capable d'éviter, parce qu'elle n'est plus capable de se servir de l'environnement pour éviter, le premier réflexe, ça va être l'agression. Et ça va être extrêmement violent. Donc, des personnes comme ça qui ont toujours été sur le plan hiérarchique avantagées, et là, tu réussis à le coincer, il faut s'attendre à de l'agression. Donc, c'est très dangereux. Puis c'est pour ça que c'est comme plus une personne a réussi à éviter longtemps, plus tu as peur de cette personne-là. Et c'est un cercle vicieux, donc elle est maintenue. Il n'y a personne qui la challenge. Donc, on a plein de personnages comme
fou.
Ça, autant dans la vie privée que publique, présentement.
Oui, puis je pense que c'est ce qui devient frustrant souvent pour les gens autour, que personne n'ose challenger. Tout le monde voit le problème, mais personne ne l'affronte. Tu sais, c'est pas sain, là.
C'est parce que ça fait peur. On sait de quoi cette personne-là est capable. Elle est capable d'agression. Donc, du narcissisme qui a été maintenu dans le temps, ça va être une personne qui va être extrêmement agressive. Et plus elle est brillante, plus elle a des stratégies pour qu'elle soit agressive, mais jamais que ça passe sur sa faute, pour jamais que elle soit laide. Donc, c'est là où tu as des stratégies politiques, des stratégies passives-agressives, tu as des complots, tu as un paquet de stratégies agressives.
C'est fascinant. C'est complètement fascinant.
Il y a tellement de personnes dans la tête en ce moment, c'est incroyable.
Ouais. Mais je pense que tout le monde a quelques personnes en tête et c'est ce qui fait peur.
Oui. Est-ce qu'il y a la question qu'on peut se poser, parce que je pense qu'on vient de le perdre encore, là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des professions qui attirent ce genre de personnes-là? T'sais, exemple,
ah, mon
en
Dieu,
politique.
J'en ai une bonne.
T'es un politicien, tu peux-tu
t'aimes l'être? L'attention définitivement, ouais. T'aimes être dans l'œil du public, t'aimes que les gens aient des choses à dire sur toi.
Le monde des communications, donc politicien, journaliste, animateur,
je pense que notre
radio.
Milieu à nous est très, très sujet à ça.
Y a-tu plus des gars, y a-tu plus de filles qui le sont, des pommes pourries?
C'est des grosses questions, là. Ouais. Parce que, tu sais, on est dans un milieu où on peut pas nier qu'on aime à quelque part l'attention. Il y a personne qui fait cette job-là juste parce qu'il y a des choses à dire.
Ouais.
Il faut que tu sois capable de vivre avec ce que les gens pensent de toi, ce que les gens ont à dire sur toi. Fait que oui, peut-être qu'effectivement, il y a des milieux. T'sais, il y a quelqu'un qui nous a écrit tantôt, moi, c'est la raison pour laquelle je travaille seule chez nous. Je sais que je fonctionne pas bien en groupe.
Ah, oui?
Je pense qu'il y a des gens qui sont conscients aussi que c'est pas leur formule.
Ouais.
C'est correct comme ça. Là.
Exact. Hey, Guillaume, on voulait te poser cette question-là en terminant, si tu le veux bien. Y a-tu des professions qui attirent ce type d'individu-là? Est-ce que la politique ou encore la télé, la radio, ça peut être des professions qui attirent les gens qui veulent, qui sont des pommes pourrites, mais qui veulent encore plus briller?
Toutes les positions hiérarchiquement avantageuse. Okay? Hiérarchiquement avantageuse, je veux dire, qui vient avec un pouvoir, que ce soit de la politique, que ce soit de l'attention sociale, que ce soit un pouvoir monétaire, que ce soit un prestige. Tout ça, ça va flirter avec le narcissisme. Donc, oui, définitivement. Donc, les personnes plus narcissiques sont obsédées par la hiérarchie. Tous les humains veulent monter en hiérarchie. Mais les personnes plus enclines là, et les professions qui ont un avantage sur le plan hiérarchique sont beaucoup plus sujets à ce genre de personnes-là. Et c'est très difficile de bouger, les destituer.
Guillaume Dulude, tu es toujours aussi fascinant. C'est le fun de jaser avec toi. C'est facile de jaser avec toi.
Merci à vous autres.
T'es doctorant en psychologie, recherche et fondateur de Psychom. Ce soir, tu fais un live sur les réseaux sociaux. Tu analyses la conversation Trump et Zelensky.
Oui, parce que on en a parlé beaucoup sur le plan politique, mais moi, mon angle, c'est la psychologie, puis mon but, c'est diminuer la division sociale, et puis je pense que mon angle, très humblement, c'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces dialogues-là? Pourquoi on s'est retrouvé là? Est-ce que ça aurait pu être évitable? Donc, étant donné que tout a été télévisé, je vois mal comment on peut passer à côté de cette opportunité-là. Sans aller dans la politique, le but, c'est pas aller dans la politique, c'est rester dans la psychologie. C'est quoi les armes de Zelensky? C'est quoi les armes de Trump? Comment ils ont interagi ensemble? Et surtout, comment Vance a interagi là-dedans, ce qui est une clé là-dedans.
Je trouve ça particulier parce que toute la discussion qu'on a eue ensemble, pour moi, fait un lien avec le live que tu vas faire de ce soir. Je sens que Trump fait partie des pommes pourrites.
Ah, pas, il n'est pas le seul. Il est pas le seul.
Est-ce que on s'en va directement sur Guillaume Dulude sur les réseaux sociaux, sur Facebook?
Oui, Guillaume Dulude Psychom, vous allez me trouver là.
Donc, on t'écoute ce soir, mon ami. C'est toujours un plaisir de te reparler dans les prochaines semaines. Puis bon cours, là, ça va faire du paramoteur.
On va l'avoir, Guillaume.
Ah oui. Les gens se disent, mais pourquoi ça coupe tout le temps? C'est parce qu'il est dans les airs. Il est en
train
de faire ses cours.
Nous autres, on fait ça en direct. Ben, là, tu comprends?
C'est un
multitask. Merci de patience. Merci beaucoup de votre patience.
C'est un multitask, Guillaume Dulude. Salut. Bye-bye. Bon mardi, cher ami.
Bye-bye.
C'est-tu le fun de jaser de ça?
Hey, moi, honnêtement, là, je pourrais lire pendant des heures sur ce type de trouble de personnalité-là.
Ouais.
C'est comme des connexions mentales que je ne comprends pas. J'ose ne pas ou ne pas avoir été dans ma vie une pomme pourrite pour quelqu'un, ouais. Honnêtement.
Mais tu sais, quand ils parlent de stratégie, ces gens-là élaborent des stratégies.
C'est des gens super intelligents.
C'est des gens intelligents.
Ils
ben
savent
oui.
Ce qu'ils font. Là, c'est la grande manipulation.
Pour
là.
Faire des stratégies dans ta tête pour essayer de contrôler ton environnement, ça prend une certaine forme d'intelligence.
Ben absolument.
C'est ça. C'est pas de purs idiots. Fait que moi, ce que je trouve fascinant, c'est ça, c'est que ces gens-là, ils élaborent des stratégies. T'sais, moi, je suis vraiment au jour le jour, puis des stratégies, j'en ai pas. Regarde-moi aller, tu le vois.
Regarde-moi en face.
Mais de voir que ces gens-là tentent de dominer le monde,
ouais.
constamment.
Puis ils te font sentir comme les idiots, les idiotes. C'est ça qui est complètement fascinant, là. Il y a comme une projection qui se fait. Moi, honnêtement, je pourrais en entendre parler pendant des heures.
Ouais. Puis ce que je trouve le fun, c'est que les auditeurs nous ont écrit dans les dernières minutes beaucoup de témoignages. Puis celui que je trouve le plus impressionnant, c'est la personne qui dit « Hey, moi, je crois être une de ces personnes-là. » Puis j'ai décidé de travailler tout seul à la maison pour ne plus avoir de problèmes, puis surtout ne plus causer de problèmes aux gens qui m'entourent.
Puis ça, tu vois, pour moi, par exemple, je trouve qu'il y a une forme d'intelligence supplémentaire. Tu es assez conscient pour te retirer ou savoir ce qui va faire que tu vas être bien, puis tu vas laisser les autres être bien aussi. Ce qui n'est pas le cas quand tu as un trouble de personnalité avancé, j'ai l'impression.
Exact. J'ai sorti de ma vie, justement, une personne que moi et mon entourage, on considérait comme toxique pour moi. J'ai vraiment eu de la difficulté au début, vraiment, vraiment. Mais aujourd'hui, je me considère libéré. Au final, ça en a valu la peine.
Mais puis moi, je retiens de la conversation avec Guillaume que des fois, c'est difficile parce que c'est toi qui peux passer pour le méchant ou la méchante de sortir un individu comme ça de ta vie. Parce que c'est souvent une personne qui a des bonnes habiletés sociales. Fait que ça vient difficile, tu comprends, d'assumer auprès des autres que cette personne-là n'est pas correcte. Fait que non, c'est assez pété. Puis effectivement que vos témoignages sont particuliers aussi. Tu vois, sur le Twitch, là, il y en a beaucoup aussi, là, des gens qui disent que effectivement du monde de même, ils ont dû en sortir de leur vie ou qu'ils en connaissent dans leur famille, puis que c'est pas facile d'approcher justement ces gens-là.
Oui. Puis tu sais, je veux juste lancer un message pour les gens qui se sont peut-être reconnus là, comme étant la dite pomme pourrite, parce que, veux pas, dans votre entourage, dans votre famille, ça va pas. Avec vos amis, vos collègues, ça va pas. Ça va, c'est tout le temps, vous êtes constamment en conflit.
Ouvrez donc la discussion.
Je sais que Guillaume m'a dit, parlez-en, puis essayez de vous faire aider avec d'autres personnes, mais je pense que des professionnels aussi peuvent vous aider, là.
Oui, si tu veux te laisser aider, il y en a qui pour eux, n'ont pas besoin d'aide.
Tu as accès à un psychologue, tu dis « Moi, je pense être une pomme pourrite, je pense avoir le fameux syndrome de Narcisse, voici ce qui me fait penser ça. » Puis lui va être capable de t'analyser, puis ensuite essayer de te donner des pistes de solutions pour t'aider, mais il va falloir que tu travailles sur toi.
Oui, bien c'est un gros parcours, j'ai l'impression. Ça se règle pendant 2 semaines, ce genre d'affaires-là.
Exact, exact. Il est 11h12, on va faire une courte pause. Vous êtes dans l'open mic, vous avez des choses à nous dire, c'est le 418. 88-971-1021, on revient. Reg against. Oh, on est en train d'essayer de cibler les pommes pourrites autour de nous autres.
Non, mais c'est fou parce que...
Hey, content moi, que tu m'aies pas nommé.
Je trouve ça... j'ai juste le terme en anglais, traduis-moi s'il te plaît. Tu sais, mind-blowing. Tu sais, je trouve ça... c'est pété raide.
Ouais.
C'est surréaliste de dire que, OK, là, il faut que tu détermines quelle personne est peut-être vraiment une pomme pourrite et quelle personne est simplement pas une personne avec qui tu t'entends nécessairement ou... Tu sais, moi, j'ai la prétention de dire qu'il n'y a pas grand monde avec qui je m'entends pas dans la vie. Là. Je pense que je suis quand même un peu aimable
mais
comme
la
personne.
Psychologie, mais... c'est fascinant. T'sais, je salue mon chum Christian Hood, qui a été mon collaborateur psychologue pendant des années, puis qui m'en a appris énormément sur la psychologie. Moi, je suis un fan de Guillaume Dulude. T'sais, j'écoute ses podcasts. J'ai été à une de ses rencontres qu'il avait fait.
C'est un bon vulgarisateur.
Dans le secteur, c'est un bon vulgarisateur psychologique. C'est surtout un doctorant en psychologie de recherche. Puis, ce genre de sujet-là, j'en mange, mais je me pose tout le temps une multitude de questions.
Sur toi, après?
Audrey. Ben, sur moi.
Ben oui.
Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ce monde-là me fascine? Tu sais, moi, Gérald Galland, le tueur à gages le plus prolifique du Canada, qui habitait à Cap-Rouge, ce gars-là, j'ai passé des heures et des heures à essayer de comprendre puis d'analyser.
T'as pas fait un podcast sur lui?
Ben oui. Mais comment il faisait pour vivre dans son quotidien? Avec une femme qui avait aucune idée de qui était cet homme-là avec qui elle partageait sa vie.
Ouais.
Le gars partait à vélo, il embarquait dans un char, allait faire un meurtre qui avait été commandité, recevait son argent, revenait en char, rembarquait dans sa voiture, revenait en char, rembarquait sur son vélo et revenait à la maison en disant à sa blonde, ben, j'étais faire une bonne run de vélo, je suis monté quasiment jusqu'à Montréal.
Ouais. Mais c'est des bons communicateurs, c'est des bons manipulateurs.
Après ça, ils se couchaient le soir, puis ils s'endormaient. Là.
Ah, puis ils s'en sacraient comme dans
la tête. Fait que je sais pas pourquoi je suis autant attiré par ce monde-là.
Mais les c'est psychopathe.
De mafieux. Le boulevard du crime que j'ai fait, qui est encore disponible
oui,
là, en podcast.
Oui, c'est sur toutes nos plateformes.
Je ne comprends pas ce monde-là. Fait que c'est pour ça que je m'intéresse autant à la psychologie.
Ouais.
C'est que j'aimerais en savoir plus sur ces gens-là que je trouve fascinants. Hey, tu vas-tu être avec nous autres au Rempart vendredi?
Ben oui!
The vendredi, donc ce vendredi, c'est les Saguenayens de Chicoutimi qui vont être là à partir de 19h. Puis nous autres, bon, on s'est réservé une section. Ça va être la soirée boulevard au Centre Vidéotron. Puis ça va être la section boulevard avec des auditeurs. La plupart des animateurs vont être sur place aussi. Moi, je vais amener mes gars. Denis va amener ses gars aussi, de ce que je comprends. Fait qu'on va être toute la gang assis ensemble. L'escouade boulevard va être là pour vous donner des cadeaux. Puis après la performance des Remparts, ben, c'est le groupe Carin qui va être là dans le hall principal. Donc, on aura l'occasion d'aller prendre une bière avec vous autres. Et j'ai 4 billets pour vous autres pour ce match-là des Remparts. Donc, ce vendredi. Si vous gagnez, il faut vraiment que vous soyez là.
S'il vous plaît. Là, pas enlever des passes à d'autres mondes.
Exact. 418-971-1021. 418-971-1021. La question?
La question? Quand il va être là ce soir-là, c'est quoi la toune qui devrait commencer le show selon vous?
C'est Adam et Ève.
C'est Adam et Ève pour toi?
Ah, toi, tu le mettrais à la fin, hein?
Ben plus, là. Normalement, ces tunes-là, tu sais, embarque ma belle, tu veux ça à la fin?
Embarque ma belle, j'amène...
Hey, ça va être écœurant, ce show-là. Quand c'est comme des mal-aimés que tout le monde se rend compte, finalement, que tu connais toutes leurs tunes.
Ben oui.
Puis tes... Mexico, ça pourrait être pas pire. Comme dans le temps, c'est assez
quel
bon.
Paradis,
c'est laquelle ta préférée?
C'est Adam et Ève.
Adam et Ève, définitivement? Ouais. Ouais. Oh, mon Dieu. J'en ai tellement de bonnes et on va avoir beaucoup de plaisir. Il y a des gens qui pensent que c'est Embarque ma belle, tu vois, qui devrait commencer le show. Adam et Ève, il y a quelqu'un qui nous dit comme presque toujours, ils commenceraient leur show avec Adam et Ève. Fait que tu vois, t'es pas fou. Mexico.
Merci. Mais Guillaume Dulude l'a dit tantôt.
Que t'étais pas cinglé. Ben, je vais essayer de garder ces paroles-là en tête là, pour les journées où je trouve ça difficile.
OK. Oh, donc, venez avec nous autres vendredi, puis vous pouvez acheter vos billets là, sur Ticketmaster sans aucun problème, les amis. Nous autres, on se laisse là-dessus. Les colocs Dédé sur Boulevard. Je te souhaite de passer une belle journée. On t'écoute à 14h avec Denis tantôt.
Oui.
Salut.
Là.
Bye-bye.
Juste en bas de chez moi sur la...